franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Une femme qui avait parcouru le toit du monde et qui est morte il n'y a pas si longtemps, c'était en 1969. Elle avait renouvelé peu avant, à tout hasard, et pourtant elle n'avait pas l'âge, son passeport. Archives France Inter, 8 septembre 69.
C'est avec une profonde émotion que le monde de la littérature et le monde des explorateurs aussi a appris cette mort. Elle avait fêté ses 100 ans le 23 octobre dernier.
Alexandra Davinel s'était retirée depuis de nombreuses années dans une propriété aux environs de Digne, une maison qui était à la fois un temple et un musée renfermant divers objets ramenés de ses voyages en Extrême-Orient. Son œuvre la plus célèbre reste et restera longtemps encore le voyage d'une Parisienne à Lhasa.
Gilles Van Grasdorff, bonjour Gilles Van Grasdorff.
Bonjour mon cher Jean.
Vient de publier aux éditions Pygmalion une biographie d'Alexandra Davinel. Il fallait que l'historien non-conformiste du Tibet que vous êtes la rencontre un jour.
Ah oui, tout à fait. J'aurais aimé la rencontrer d'ailleurs de son vivant. Malheureusement, nous nous serions certainement engueulés hein, sur bien des points. Mais bon, il fallait, oui, effectivement. J'ai mis du temps. Et c'est la maison d'édition chez Pygmalion, les éditeurs qui m'ont dit pourquoi pas Alexandra Davinel. Effectivement, et quand j'ai mis le nez dans son histoire et dans sa vie, eh bien, des choses se sont. J'ai découvert plein de choses.
Et il fallait que ce fût un tibétologue d'origine belge qui s'intéressa au passé, à l'enfance, à l'adolescence d'Alexandra Davinel, qui s'est en effet passé en Belgique, parce que tout a commencé après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte avec le départ des proscrits français. Nous sommes en 1851, qui, comme Victor Hugo, rejoignent la libre Belgique.
Monsieur le ministre, l'Assemblée a été investie. Nous transférons les députés à la prison. Selon vos ordres, nos agents traquent les insurgés qui excitent le peuple de Paris. Cependant, malgré notre vigilance, M. Victor Hugo nous a échappé.
Gare du Nord, Victor Hugo quitte la France. Nous sommes le 11 décembre 1851. Bruxelles, 12 décembre. Victor Hugo est accueilli par Juliette Drouet. Il s'installe sur la Grand Place. La police le retrouve rapidement. Écrivain et homme politique de renom, il estime de son devoir de rendre compte du crime du 2 décembre.
Je n'ai qu'une pierre dans ma fronde, mais cette pierre est bonne. Cette pierre... c'est la justice.
Documentaire d'Axel Clévenot, France 5, 2002, en 1851. Chez vous, en Belgique, Gilles Van Grasdorff, les proscrits derrière Victor Hugo se retrouvaient le père d'Alexandra Davinel et l'un d'eux, plus modeste évidemment.
Plus modeste, bien sûr, mais vous savez, la Belgique à cette époque-là est une jeune nation souveraine avec un roi, Léopold Ier, et surtout un bourgmestre à Bruxelles qui a décidé, alors qu'il est libéral, c'est le gouvernement est libéral à l'époque, a décidé d'ouvrir les portes à quelques centaines de proscrits. Ceux qui ne se plient pas aux lois belges sont ensuite expulsés. Ça va être le cas de Victor Hugo et David.
Pierre-Louis David, le père d'Alexandra,
contrairement à ce que tous ses biographes ont écrit, n'a jamais pris le train avec Victor Hugo. Il est emprisonné en Touraine, il est à Tours, il est également considéré comme un homme très dangereux, banni, mais il rejoint la Belgique seulement au mois de mars 1852.
Et alors, le libre penseur d'Indre-et-Loire, petit journaliste local, proscrit à Bruxelles puis à Louvain, va faire d'ailleurs fortune et laisser de bonnes rentes à sa fille. C'est beaucoup plus tard. Mais avant de parler des revenus, parlons des modèles. Alors, il y a Victor Hugo, à l'enterrement duquel le père et la fille vont aller, mais il y a un anarchiste extraordinaire, immense géographe de profession qui viendra plus tard, Élisée Reclus.
Tout à fait. Les frères Reclus, d'ailleurs. Hein. Élisée, le géographe, et Élie, qui raconte à l'Université Nouvelle de Bruxelles à partir de 1895 le folklore, le mysticisme des pays traversés. Et donc c'est là que petit élève un auditeur libre à l'Université Nouvelle de Bruxelles qu'Alexandrin prend, commence à penser à partir à l'ailleurs, à d'autres chemins.
Au ruisseau, aux montagnes auxquelles Élisée Reclus a consacré de beaux livres. Il y a une face obscure de l'extrême gauche, de son histoire, que vous éclairez, un peu comme Philippe Murel avait fait dans le 19e siècle à travers les âges. Gilles Van Grasdorff, c'est le rapport avec l'occultisme. Les socialistes font tourner les tables et les anarchistes sont parfois théosophes.
Tout à fait. C'est Alexandrin, dès 20 ans, qui, rejoignant Londres, rejoint les théosophes, la société théosophique de Blavatsky. Elle prône la libération des femmes. C'est important aujourd'hui. Elle dit dans ses textes, notamment la doctrine secrète, que le pouvoir d'Isis est pour demain, à condition que, et là c'est une autre théosophe qui rentre dans le jeu, Annie Besant, à condition qu'on s'ouvre aux francs-maçons, ceux-là vont leur permettre de soutenir la thèse de ce combat de la féminité au monde.
Alors Isis, son pouvoir, c'est pour demain, disons ça le 8 mars, et puis à l'origine, pour les théosophes, la source première, c'est l'Inde, et elle va apprendre le sanskrit, notre amie Alexandra d'Avenel. Mais une autre langue aussi lui est familière, c'est la langue de la musique, elle est diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles. Ce n'est pas elle, notre réalisateur Jacques Segal est capable de prodiges, mais pas à ce point. Ninon Vallon, dans Massenet, Massenet qui a protégé notre amie Alexandra David Néel, et c'est la génération d'après. Elle chante Manon à la Scala de Milan en 1931. Alors dans les années qui nous intéressent, à la fin du 19e siècle, Alexandra David Néel, qui porte le pseudonyme sur la scène d'Alexandra Myrial, elle chante ailleurs.
Chante à Hanoï. Elle commence à chanter à Vilvoorde. Oui. Et à Bruxelles, elle a un diplôme du Conservatoire d'art lyrique de Bruxelles. Donc, c'est encore là toute l'histoire bruxelloise. Hein, parce qu'elle voulait devenir infirmière, médecin, et puis elle avait des dons de chant. Donc, sa mère s'était offusquée à l'idée de voir une femme médecin. Et notre chère Alexandrin donc, a commencé à gagner de l'argent en espérant donc rejoindre Paris grâce à l'art lyrique. Rejoindre donc le Massenet et puis peut-être faire carrière.
Mais en fait, bon, c'est Haïfong.
C'est Haïfong, c'est Hanoï, Tunis, et Tunis où en 1904, elle va, alors qu'elle est première chanteuse à Tunis, à l'Opéra de Tunis, elle va rencontrer son futur mari, Philippe Niel.
Alors, Philippe Niel, c'est un Hidalgo qui habite à Tunis, un ingénieur. qu'elle va mener un peu par le bout du nez. Montmouchi, enfin autant dire, quand elle lui écrit, elle dit Montmouchi, mon mouton.
Tout à fait. Elle lui l'appelle Moumi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vit sur un bateau qui s'appelle la Goulette. Et il y a de nombreuses maîtresses. Et il lui adresse un petit mot en lui disant « Je vous invite à dîner à la Goulette, une histoire d'amour commence. » Mais le problème, c'est qu'ils vont se marier. Mais le mariage va durer 8 jours, sans jamais divorcer. Elle va commencer à partir, souvent. Et puis...
C'est lui qui finance.
Lui va avoir de nombreuses maîtresses. Notamment
et c'est lui qui finance
les voyages. Oui. Au départ. Et qui est toujours là comme un garant jusqu'à sa mort.
Hein. Et un correspondant, alors dans le premier grand voyage qu'on va raconter, on ne le racontera pas les autres, beaucoup de lettres sont écrites à distance et il est recommandé à Philippe de les conserver pour une édition et des travaux futurs. Alors le premier grand voyage commence en 1911, il va durer jusqu'en 1925, le mari et la femme ne vont pas se voir pendant 14 ans. Voici une lettre qui date du début de ce premier grand voyage.
11 juin 1912. Pour l'instant, je reste ensorcelée. J'ai été au bord d'un mystère. Je serai restée là des jours pour mieux voir ce que je ne reverrai jamais. Oui, je vais en rêver longtemps, toute ma vie. Et un lien restera entre moi et cette contrée des nuages et des neiges.
La contrée des nuages, rêver, c'est le toit du monde, c'est le Tibet, où on doit être plus près du ciel, le ciel peuplé d'hôtes surhumains et qu'on approche en vivant dans des monastères, voire dans des grottes.
J'ai vécu en ermite. J'habitais une caverne à 3900 mètres d'altitude. On me ravitaillait, non pas une fois seulement par an comme les ermites, mais deux fois, au printemps et en automne, parce que les vallées qui s'étendaient au-dessous de mon ermitage étaient entièrement bloquées par la neige pendant la moitié de l'année.
Alors il faut imaginer cette femme d'1m56.
Oui, tout à fait.
Trottant comme ça sur les pistes.
Trottant, mais elle n'est jamais seule. Hein. Elle est toujours bien. Son voyage vers le Tibet, enfin vers le toit du monde, au début, se passe par des haltes assez longues à Bénarès et à Adyar chez les théosophes. C'est très important parce que c'est aux Indes qu'elle va découvrir le bouddhisme ésotérique. Donc celui des Dalai Lama, que nous connaissons tous aujourd'hui, du 14e Dalai Lama, mais elle va rencontrer le 13e Dalai Lama. Mais une halte s'impose au Sikkim, où elle rencontre le Shogyal du Sikkim, où c'est-à-dire ce Shogyal, le roi du Sikkim, le prince roi, si vous voulez, hein, qui est le chef des monastères. Donc elle s'installe dans les monastères. Et là, elle rencontre un ermite qu'on appelle le Gomchen de Lachen. Et le Gomchen va lui apprendre certains secrets du bouddhisme tantrique, et notamment des yogas qui lui permettront de tenir à 4000, 5000, 6000 mètres d'altitude.
Oui, parce qu'on peut faire chauffer ses draps par les techniques de la méditation, même si on est nu en plein hiver. Ouais. Dites-moi, le 13e Dalai Lama, elle le rencontre alors qu'il est en exil. Il est d'ailleurs extrêmement étonné d'apprendre que des textes sacrés du tibétain sont traduits en français.
Tout à fait, parce qu'à l'époque, le grand tibétologue s'appelait Burnouf et Alexandra l'avait rencontré à Paris. Et donc, elle lui raconte tout ça. Mais c'est l'homme qui est plus important que le 13e Dalai Lama, pour Alexandra, c'est un certain Dawa Samdup. C'est celui qui a traduit et commenté le livre tibétain des morts de Padmasambhava. C'est un texte qui date du 7e siècle. Et Dawa Samdup va prendre sous son aile Alexandra, lui apprendre toutes les techniques de yoga avec le Gomchen.
Et c'est extraordinaire parce que vous êtes aussi à l'aise avec le tibétain qu'avec le flamand et le wallon. Pendant ce temps-là, 1914, la guerre a éclaté qu'Alexandra suit de très loin.
La ligne allemande avance vers la Belgique, la France et les ports de la Manche. La neutralité de la Belgique n'existe plus que sur le papier. Avec le viol de la Belgique commence la Grande Guerre.
Quand elle apprend l'armistice, le 11 novembre, elle apprend bien plus tard, elle met au sommet du monastère un oriflamme.
Tout à fait. C'est extraordinaire parce que Alexandra a une double souffrance. Elle a sa famille en Touraine qui a donc subi les affres de la guerre de 1914. Et elle a donc une autre famille en Belgique. Et la famille vit à Ixelles. Et sa maman, son père est décédé en 1905, mais sa maman est seule. Et donc elle est seule, confrontée à la guerre. Donc il y a des cousins qui s'occupent d'elle, mais elle est vieillissante, le temps passe et elle souffre de tout cela. Elle souffre aussi de tous ces morts parce qu'elle n'a pas du courrier régulier, on s'en doute bien, donc sur le toit du monde. Mais elle écrit, elle pense à cette Belgique tant aimée et à sa mère.
Sur l'oriflamme, après l'armistice de novembre 18, il y a une phrase qui dit non aux démons.
Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Parce que le Tibet, c'est bien connu, est peuplé de démons et n'est pas sans danger. Alors, elle n'y est pas encore parvenue. Là, en 1918, elle va tenter une seconde approche sur le toit du monde, alors par le nord, par la Chine, non sans danger, là encore.
Dans le cycle Entretien avec, veuillez écouter Appel des lointains, une série d'émissions consacrées aux explorateurs célèbres présentées par Georges Ney. Aujourd'hui, l'appel du Tibet avec Alexandra David-Nel.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Gilles Van Grasdorff qui vient de publier Alexandra David-Nel, une nouvelle biographie. Alors, racontez-nous cette deuxième expédition par le Nord, non sans danger, parce que la Chine est en proie au banditisme, au seigneur de la guerre. Comment arriver à Lhasa, la capitale, où le 13e Dalai Lama s'est réinstallé?
Tout simplement, elle va s'installer dans ce qu'on appelle les marches tibétaines, là où se trouvent les missionnaires des missions étrangères. C'est à partir des marches tibétaines, pour mieux le situer, on est dans le Yunnan ou aux portes du Sichuan. La capitale de cette région s'appelle Tatsiano et c'est une des routes de la soie donc qui permet les échanges de Lhasa vers la Chine. Elle va rester séjourner un certain temps, mais dans les marches tibétaines chez les missionnaires, en préparant son départ. Oh, elle va essayer 4, 5, 6 fois un jour, elle dit, voilà, on va se déguiser en mendiant, on va passer par le Dokarla, c'est-à-dire un sommet, une passe qui est à 6000 mètres. Et quand elle va passer ce col, comme à chaque fois, comme au Sikkim, ils vont pousser, elle est accompagnée par Yongden, son fils adoptif, et ils vont pousser ce cri, la Gyalo, les dieux sont vaincus. C'est ainsi qu'ils arrivent. Enfin à Lhasa. Octobre 23. Et c'est la fin de l'année pour nous, mais les Tibétains vont rentrer dans une longue période. Elle va y rester jusqu'au mois de février, 24. Et c'est le moment de l'Ossar, du Nouvel An. Donc déguisé en mendiant, avec ses simples habits presque nus en dessous, avec ses yogas secrets qui lui ont permis de franchir l'école et de survivre dans la neige et de faire fondre même de la glace pour allumer les feux, etc. Donc c'est extraordinaire. Ces yogas mystiques, on n'y a pas cru. On a mis en doute. Et moi, dans mon livre, j'ai tenu à réparer tout cela, parce que tout cela, ce sont des secrets qui m'ont été révélés par le médecin du Dalai Lama, le docteur Tenzin Shorak.
Faire fondre la glace pour provoquer le feu, eh bien, je demande à voir. Le public aussi, alors elle rentre. On ne va pas raconter les autres grands voyages. Elle rentre en 1924. Elle fait feu de tout bois, parce qu'elle a une stratégie, qu'on pourrait dire, médiatique. Elle va multiplier les conférences. Elle va écrire d'innombrables livres qui sont toujours disponibles, vous verrez ça sur le site de la Marche de l'Histoire. Et puis découvrir la radio, ici, la RTF, 1er décembre 1954.
Le Tibet, tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy.
Pour le moment, on parle beaucoup chez nous des paysans, des cultivateurs. Il doit y avoir aussi une paysannerie au Tibet. Voulez-vous nous en parler ?
Évidemment, il y a des paysans au Tibet. Ils n'ont rien de particulièrement pittoresque, si ce n'est à notre point de vue, à cause de la différence de leurs mœurs avec les nôtres. On peut décrire assez exactement le caractère des paysans tibétains, disant qu'ils sont d'humeur joviale et généralement insouciants, ce qui est fort heureux pour eux. Autrement, je me demande comment ils pourraient supporter l'atmosphère de croyances sinistres dans laquelle ils se meuvent. Pour s'en faire une idée, nous devons évoquer les plus sombres jours de notre Moyen-Âge. Comprenez seulement aujourd'hui que le Tibétain des campagnes imagine que des êtres d'un caractère généralement malveillant existent partout autour de lui.
Comment dire, tant d'années après, Gilles Van Grasdorff, il peut arriver que certains livres, certains témoignages aient deux auteurs, celle qui signe et puis la communauté des auditeurs ou des lecteurs qui a certaines attentes et comment dire, certains préjugés.
Ils savent, Alexandra savait, connaissait très bien les gens qui, auxquels elle s'adressait. Elle s'est construite toute son histoire, mais c'est vrai que, vous savez, j'ai vécu moi-même des superstitions extraordinaires. Je vais vous raconter une petite anecdote très, très rapidement. Je suis à Dharamsala. Une école s'ouvre et sur les ordinateurs, les jeunes élèves qui donc formés par le Dalai Lama et sa famille,
c'est le lieu d'exil 14e Dalai Lama,
avait marqué Om Mani Padme Hum, le mantra célèbre du bouddhisme tibétain. Et les anciens sont arrivés, ils ont ouvert les portes et quand ils ont vu cela, ils se sont mis à se prosterner et à entourer tous les ordinateurs d'écharpes de soie qu'on appelle les katas. Et c'est tout le temps comme ça. Le Tibétain d'aujourd'hui, c'est le Tibétain qu'Alexandra a rencontré il y a plus d'un siècle.
Mais c'est superstition, puisque vous utilisez le mot, Gilles Van Grasdorff, c'est la menue monnaie d'une grande philosophie, d'une grande religion. On doit être redevable à Alexandra David-Néel de nous avoir introduit dans les labyrinthes du bouddhisme. Alors je vous propose d'entendre sa voix une dernière fois. Elle a fait l'expérience de la télévision sur le tard. La voix a vieilli. Elle a 100 ans quand elle parle au micro et aux caméras en 1969.
Le bouddhisme du Bouddha, il se résume en trois choses. La permanence, la souffrance et le non-moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personnalité homogène qui existe dans l'individu. Il y a un Tibétain qui me l'a défini très bien. Il a dit, ce que vous appelez en moi, c'est un parlement.
C'est formidable cette définition de l'homme comme un parlement. Le vieux maître, disait Reclus, disait il y a une république de la parole dans les arbres, avec des oiseaux qui se parlent entre eux, et peu importe les vautours dont le vol au-dessus est menaçant.
Oui, c'est tout à fait vrai, mais la phrase est belle. Vous savez, Alexandra, dès son plus jeune âge, dès ses 20 ans, apprenant le bouddhisme ésotérique, est imprégnée du karma, de la notion de l'impermanence. La mort, c'est une étape. Le Dalai Lama ou le Bouddha dit qu'on se débarrasse de ces vieux, de ces habits usés pour revenir. C'est aussi très très important ce qu'on appelle le samsara dans le bouddhisme tibétain, c'est-à-dire le cycle des existences. On acquiert des mérites pour revenir et atteindre peut-être un jour le nirvana. Je ne sais pas si Alexandra y est parvenue. Je trouve quand même qu'elle nous a permis de découvrir une énorme philosophie. Et puis, il ne faut pas oublier que le bouddhisme tibétain est quand même très imprégné, et je reviens aussi sur ces notions de superstition, très imprégné de la tradition Benpo, qui était cette tradition de la religion originelle du Tibet, qui existait au Tibet bien avant le bouddhisme qui est apparu au 6e siècle.
Elle avait de l'humour aussi, Alexandra David-Néel. Alors, quand elle meurt, elle demande à être incinérée, ses cendres doivent être dispersées au-delà de Marseille. Sa gouvernante, Marie-Madeleine Perronnet, les met dans une urne, mais pas de chance, il y a des os qui ont résisté, puis le crâne d'Alexandra David-Néel était particulièrement dur, donc l'urne est sur le porte-bagages dans le train, et ça tintine à bulles. Et alors les dames qui sont en dessous dans le compartiment s'interrogent, et Marie-Madeleine Perronnet leur dit « Vous voyagez avec une morte », et les dames fuit effrayé, ça aurait fait rire Alexandra David-Néel.
Oui, parce que la mort ne lui fait pas peur. Elle a vécu avec la mort. Elle s'est beaucoup interrogée. Elle avait une cinquantaine d'années quand elle a parlé de la mort pour des premières fois véritablement à son mari, à Philippe, en disant le temps avance, le temps progresse, le temps passe, et il faut peut-être penser que je ne reviendrai jamais, en tous les cas pas vivante. Donc elle vit avec la mort depuis toujours, mais elle est bouddhiste, profondément bouddhiste. Et donc elle sait que c'est l'enveloppe qui va partir. Je pense qu'elle a dû se réincarner quelque part au Tibet, je l'espère pour elle.
Mais qu'est-ce que le bouddhisme peut apporter à la réflexion d'une émission comme La Marche de l'Histoire? Parce que la préoccupation des historiens, c'est comment faire pour que le souvenir des hommes soit davantage qu'une ride dans l'eau?
Écoutez, moi je pense que il faut prendre les mots d'Alexandrin qui sont tout au long, au fil de ses livres, c'est le caillou que l'on laisse tomber dans la rivière et l'eau se trouble, mais quand tout recommence et que tout devient pur, eh bien l'eau s'éclaircit. Et Alexandrin décrivait ces moments d'immense partage avec la nature, avec les hommes, avec les autres, dans tous ses livres.
Enfin, on fait un portrait sympathique, comme vous, dans votre livre, mais c'était aussi à la fin de sa vie, à Digne-les-Bains, où elle s'était retirée dans une grande maison qui est devenue un centre culturel. Comment disait Marie-Madeleine Perronnet, je crois, un océan d'orgueil ou un Himalaya d'égoïsme. Tenez, voilà comment elle traitait ceux qui lui coupaient la parole, la République de la parole. Oui, peut-être, mais à son compte.
Mais c'est fini maintenant. Écoutez, monsieur, si vous voulez bien, pour ne pas perdre de temps, nous allons lire ça pour voir combien de temps ça prend. Et puis après, on l'enregistrera.
Oui, alors, allons-y, puisqu'il faut lire. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire? Gilles Van Grasdorff aux éditions Pygmalion. Puis, sa correspondance,
sa correspondance, livres. Oui. Je crois qu'il y a quand même c'est ce livre. Et ces livres sont... cette correspondance est magnifique. Parce qu'il y a des lettres, des réponses de Philippe Neal. Et puis, il faut lire tous ces récits sur la Chine et sur le voyage à Lhasa, d'une Parisienne à Lhasa, bien sûr. Mais il y a aussi ces textes écrits sur le bouddhisme tantrique, le bouddhisme tibétain. Son premier livre est paru en 1911.
Toute référence sur notre site. On y verra aussi celle du centre culturel Alexandra David Neal. La marche de l'histoire avec Franck Olivard, Frédéric Martin, Jacques Sigal à la technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Cédric Lalanne. Et je vous rappelle que notre site est ouvert à vos commentaires et à vos demandes de renouvellement.